voilà pour une nouvelle édition des carnets de Comaguerre sur l'actualité internationale. Bonjour Roselyne. Bonjour, qu'on retrouve dans la cabine technique sous son casque. Voilà. Alors, Roselyne est sous un casque, mais elle ne part pas, elle n'a pas été embauchée pour faire la guerre. Pas. Elle fait juste la guerre des ondes. Pas plus, ça fait pas mal. Bon, ça va se passer. Et puis, bonjour Habib qui est là à mes côtés.
Bonjour.
Alors, des petites informations pratiques d'abord, parce que nous ne ferons pas d'émission mardi prochain, 26 décembre. Par contre, nous en ferons une, ça sera l'occasion d'ouvrir la nouvelle année, le 2 janvier, dans l'après-midi, toujours à l'heure. Ça, c'est les informations pratiques. Je ne sais pas encore, on fera probablement une rediffusion le 26, mais pas d'enregistrement à vif et en direct. Parce que malgré une actualité internationale extrêmement dense et douloureuse par beaucoup d'aspects, on a aussi des fêtes, des gens à rencontrer, des enfants à voir, des petits-enfants à voir, des choses comme ça, hein, des réunions de ci et de là. Bon, donc pas d'émission le 26, mais on se retrouve le 2. Par ailleurs, au niveau pratique, je voulais souligner, parce qu'on n'a pas tellement, j'ai pas tellement l'occasion de le dire, que les sujets que nous abordons ici, donc à la radio, sont souvent assez repris dans des bulletins écrits que nous rédigeons et que nous diffusons. Alors nous n'avons pas de blog, pas de site internet et tout. On les envoie à un certain nombre d'amis ou de gens qui nous lisent habituellement. Et peu, eux, ils en font ce qu'ils ont envie de faire très librement. Soit ils disent « Oh là, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. » Ou soit ils disent « Ah ben ça, c'est intéressant, moi je le fais passer à mes amis, connaissances, je le mets sur mon propre blog, etc. » On laisse chacun libre de son appréciation sur la qualité de notre travail écrit. Mais ce travail écrit, il existe sous la forme de bulletins de Comaguerre. On en est au numéro 540, je crois, depuis qu'on a commencé à en écrire. Donc simplement, si vous voulez un jour entendre ou lire un de ces bulletins, vous envoyez un mail à comaguerre, comaguerre@orange.fr. On vous met dans notre fichier et vous l'aurez comme plusieurs, pas centaines, mais plusieurs dizaines de fidèles qui lisent ce que nous écrivons et qui est dans le droit fil de ce que nous développons à l'antenne, avec en plus un peu plus de recherche sur les documents initiaux, une profondeur historique plus importante. En général, on traite un sujet dans un bulletin. On ne fait pas comme dans cette émission-ci, une couverture de l'actualité hebdomadaire couvrant des tas de sujets. Et comme on couvre plusieurs sujets, on a de la peine à aller au fond de chacun des sujets. Ça, c'est la règle du jeu de l'émission à la semaine. Ceci étant, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de matière et je vous ferai part tout à l'heure d'une de mes découvertes de la semaine écoulée qui n'est pas sans intérêt et même très passionnante. Mais je vais commencer par les troubles au sein de l'Union européenne. Non pas qu'il n'y a pas d'émeute, tout va bien, il y a ici et là un certain nombre de mouvements de grève, mais on sent bien que l'unité de façade des 27 Européens, elle est fragile. Elle est fragile parce que sur des tas de sujets, il y a des désaccords entre différents membres de l'Union européenne et qu'ils ne sont pas prêts, à mon avis, de s'arrêter. Ils ne font, à mon avis, que s'amplifier. Le dernier sur lequel je suis tombé est assez cocasse, c'est-à-dire que la Pologne et la Hongrie refusent d'acheter des vaccins Pfizer contre le Covid. Alors, ça, c'est étonnant. Bon, d'abord, ils ont peut-être raison, parce qu'est-ce qu'il y a encore besoin de vaccination? Est-ce que la petite reprise du Covid est vraiment inquiétante, dangereuse et tout? Ça, je laisse chacun d'entre vous se faire son opinion là-dessus. Mais toujours est-il que, quelles que soient les possibilités de redémarrage d'une épidémie plus importante, on a deux gouvernements qui se trouvent face à un diktat, on ne peut pas appeler ça autrement, de la Commission européenne, incarnée par Mme Ursula von der Leyen, qui a décidé que l'Europe achèterait des vaccins Pfizer en grosse quantité et qui maintenant aide Pfizer à vider ses stocks. C'est tout. Et la Pologne se trouve dans... On lui dit, vous avez encore acheté 60 millions de doses. Alors 60 millions de doses, il n'y a que 40 millions d'habitants en Pologne, il y en aura de reste. Et la Pologne dit, mais attendez, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin. Hein. Donc je veux bien qu'au moment de l'extrême pointe de l'épidémie, on ait accepté, mais maintenant, est-ce que c'est à l'ordre du jour? Et donc il y a... Et puis, c'est, bien sûr, ces 60 millions de doses ne sont pas gratuites. Hein. Mettez-les autour de 12-15 euros la dose, faites l'addition. Et donc la Pologne dit, attendez, c'est bien gentil, mais j'ai pas envie. La Hongrie, qui a toujours mauvaise presse et mauvais caractère, dit, mais moi non plus. Voilà, donc un premier sujet de discorde. Un deuxième sujet de discorde vient de, je remercie Roselyne de nous avoir signalé la chose, de Madame Meloni. l'ineffable, l'inénarrable Madame Meloni, et ce n'est pas la première fois puisqu'on en avait déjà parlé à l'antenne, se permet de dire du mal de la République française et de son rapport à l'immigration africaine. Bon. Et alors effectivement, elle a le pain et le couteau, j'allais dire, pour le faire, parce que les mains de la République française ne sont pas très propres, pas très blanches par rapport au traitement qu'elle fait de l'immigration. Mais en fait, ce qu'elle fait à travers ça, c'est qu'elle essaye de faire passer sa politique à elle, relative à l'immigration. Et sa politique à elle, elle est très très simple, mais elle est tellement simple que d'autres ont repris la même idée sans avoir pu tout à fait la faire valider. Je pense à un certain monsieur Darmanin. Il s'agit de dire, on va sélectionner les immigrés pour les faire venir dans les métiers en difficulté, dans les métiers où il manque de main-d'œuvre, où les populations locales, européennes, françaises, anglaises, tout ce qu'on veut, ne veulent pas travailler. Alors on ne précise pas que certains, dans certains cas, ils ne veulent pas travailler parce que les salaires sont tellement pauvres et les conditions de travail tellement rudes qu'effectivement les candidats ne se pressent pas au portillon, comme on dit. Bon. Toujours est-il qu'elle a, elle, cette idée, donc les secteurs en difficulté, où il y a ce qu'on appelle très poliment des tensions sur le marché de l'emploi, hein, elle dit « mais eux, je les prends ». Alors bien sûr, elle ne dit pas dans quelles conditions, c'est-à-dire que vous pouvez dire « allez, je fais un appel, il me faut, je ne sais pas, disons un chiffre, n'importe quoi, 10 000 cuisiniers dans l'année pour faire fonctionner les trattorias qui n'ont plus de personnel auprès du four à pizza ». Bon, alors elle va trouver peut-être, elle va nécessairement trouver dans des pays africains qui ont des difficultés économiques, des gens qui vont dire « ah, il y a 10 000 postes de cuisiniers en Italie, j'arrive ». Et puis après, ils verront bien comment ils sont payés, ils verront bien combien d'heures ils font par jour, ils verront bien dans quel gourbi on les loge. Ça, ce sera pour après, ce sera la deuxième période, le moment où ils déchantent. Alors, donc la vision de Mme Meloni, elle est simple, je dis, je casse du dos sur la République française, hein, qui laisse entrer trop de gens, moi, je filtre. Mais ce qu'il faut que vous ayez en conscience, quand Mme Meloni dit ça, elle est présidente du Conseil, et je pense qu'elle va prendre ce chemin-là, c'est que c'est le même chemin qu'était en train de suivre M. Darmanin, M. Macron et Mme Borne pour la France. C'est-à-dire ouvrir les frontières pour à des gens, même sans papier régulier et tout, aux métiers en tension. Alors, on les connaît, les métiers en tension, c'est les mêmes en France qu'en Italie. C'est l'aide à la personne. Hein, pour aller apporter des soins ou des repas aux personnes très âgées qui ne peuvent pas bouger. C'est les métiers de la restauration, c'est une partie des métiers du tourisme, et il y en a aussi un petit peu dans certains sous-métiers de la culture. Vous savez que la culture, on a affaire à des gens cultivés qui s'occupent de culture, mais encore que leur raccourci soit un peu facile, mais il y a dans la culture des gens très très mal payés. Le statut d'intermittent, ce n'est pas pour tout le monde. Et il y a effectivement des gens qui sont dans les milieux culturels, mais qui vivent chichement. Alors c'est vrai que c'est plus agréable de vivre chichement, j'allais dire, en travaillant pour une troupe de théâtre qu'en faisant la cuisine dans un kebab. Bon, je veux bien, hein, mais pas plus. Hein. De toute façon, on a là un espèce de champ flou où le patron a dit « moi, je veux de la main-d'œuvre à exploiter le moins cher possible ». Après, où on les logera, comment ils circuleront, sur quel réseau de transport, à quel prix et tout, ça, on ne veut pas le savoir. L'important, faites-les rentrer. Nous, on a besoin d'avoir de la main-d'œuvre à exploiter. Roselyne, complète, je t'en prie.
Oui, alors, ce n'est pas faites-les rentrer, je ne pense pas. C'est les personnes qui sont déjà en situation irrégulière depuis un minimum de 3 ans, avec certainement d'autres conditions. Voilà. Pourront avoir accès à une carte de séjour spéciale qui s'appelle « Travail dans les métiers en tension ». Voilà, c'est une carte de séjour spéciale de 1 an. Voilà.
Ah oui, ça, bien sûr. Alors, il n'y a pas d'engagement à long terme. C'est-à-dire, on va vous dire, vous commencez là, vous êtes simplement balayeur, et puis petit à petit, vous allez passer un diplôme de ci et ça et tout, vous allez devenir cuisinier. Non, non, c'est là, aujourd'hui, tu le dis très bien, pour 1 an, il y a une tension sur le marché des cuisiniers dans les trattorias. Et là, bon, on régularise les gens qui sont là. Ouais. Et ça devrait suffire. C'est ça son hypothèse. Et donc, pour tous les autres, mais alors, pour tous les autres, la conséquence, elle est très, très claire. Pour tous les autres qui ne sont pas dans ces métiers-là ou qui n'accepteront pas ces conditions, c'est la porte. C'est tout de suite l'avion. Bon, que les choses soient bien, bien claires. Donc, on va prendre dans cette population qui est là en souffrance, en attente d'un travail et d'un petit revenu, ce dont on a besoin dans l'immédiat. Et quand ils auront bien servi, peut-être au bout d'1 an, la situation sera différente.
La carte séjour, elle dure...
Ah ben, c'est comme ici en France, 1 an. Un an, renouvelable. Alors, les meilleures cartes de séjour, il en existe encore. Il y a des cartes de 10 ans, mais avec beaucoup de difficultés.
Très rare.
C'est très, très rare.
Ouais.
Donc, là, le régime est très ressemblant à celui de la France, de ce point de vue-là. Alors, Mme Mélanie fait donc des effets de manche pour dire, moi, je vais régler la question de cette population de sans-papiers ou de travailleurs immigrants, etc. Elle ne règle rien. Elle facilite les besoins, enfin, elle rend service à son patronat pour qu'il puisse avoir de la main-d'œuvre fraîche, exploitable, précaire, puisque vous savez qu'au bout d'un an, si vous avez mal fait la cuisine ou mal balayé le restaurant, on ne vous la redonnera pas, la carte.
Donc, on a des plus précaires, besoin de vous,
mal cueillés, probablement mal logés, entassés on ne sait pas où, dans quelque hôtel pas en bon état. Tout ça fait partie de cet appel à la main-d'œuvre étrangère et à la régularisation. J'insiste sur le fait que le cheminement dans la République française est tout à fait semblable. Alors, c'est pas passé parce que le projet de loi a été retiré, enfin refusé par l'Assemblée nationale. Mmh. Mais ça ne veut pas dire, attention, ne nous réjouissons pas de ce rejet. Ce rejet est un échec tactique du gouvernement Elisabeth Borne. Elle n'a pas vu venir le coup, cette alliance bizarre, inattendue entre le Rassemblement national et ce qui reste de la gauche. Bon, ça, elle ne l'a pas vu venir. Bon. Mais il n'est pas impossible qu'elle retente à nouveau sa chance avec un texte encore plus dur. Je veux dire encore plus dur pour les immigrants et pour les sans-papiers. Et là, à ce moment-là, elle trouverait à demander ou à donner des justificatifs au Rassemblement national en disant « Vous avez refusé ce projet de loi. Je vais vous en présenter un qui va vous faire encore plus plaisir. Ils seront encore plus précaires que dans le premier texte. » Vous voyez le danger. Donc, ne nous réjouissons pas de cet échec tactique du gouvernement Borne, parce que les lendemains ne sont pas nécessairement plus brillants. Roselyne, on t'écoute.
Oui, alors, je vois que le 19 décembre, donc aujourd'hui, la commission mixte paritaire chargée d'établir un texte de compromis sur le projet de loi immigration se poursuit. En cas d'accord, ce texte devra encore être soumis au vote définitif des deux assemblées.
Voilà.
En cas d'échec, le projet de loi sera retiré.
Voilà, alors, commission mixte paritaire, je précise le vocabulaire des procédures, c'est un rassemblement entre l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin, des représentants des deux assemblées, qui doivent essayer de se mettre d'accord sur un texte commun, et à partir de ce moment-là, le texte commun va repartir à l'Assemblée nationale, qui, vous le savez, dans la Constitution, a le dernier mot. Alors, quelle différence y aura-t-il dans ce texte commun avec le texte initial de Mme Borne et de M. Darmanin ? Je ne sais pas. La surprise est peut-être là. C'est-à-dire qu'au fond, l'opération a peut-être consisté à durcir le texte de Darmanin et pour dire, ben, finalement, tout le monde s'est mis d'accord, le Sénat était d'accord, l'Assemblée avait eu un moment d'hésitation, mais finalement, on passe ce texte-là, qui serait probablement pire que le premier texte. Et là, on verrait bien si le Rassemblement national continue à voter contre. Et une partie des Républicains. Hein. Donc, on est sur le fil du rasoir, hein, sur cette question-là. Et le contexte italien, le contexte dans d'autres pays, est du même tonneau, j'allais dire, aussi dangereux. Bon. Voilà, ça méritait d'être dit parce que ça fait partie des fragilités européennes qui... Alors, le fond qu'il y a derrière ça, il y a une économie en difficulté dans tous les pays européens, plus dans certains que dans d'autres, plus en Allemagne par exemple, mais beaucoup en Italie pour des questions de manœuvre. Alors il faut savoir aussi que la dimension italienne, qui n'est pas encore la dimension française, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes Italiens ne refusent pas de travailler dans les trattoria ou dans les métiers du ménage, ils quittent l'Italie. C'est-à-dire que c'est très nouveau par rapport aux décennies qui viennent de s'écouler, aux décennies d'après-guerre, où les Italiens d'abord étaient de plus en plus nombreux, il y avait des enfants en Italie, et où les jeunes Italiens avaient envie de rester chez eux pour travailler, pour développer le pays. Cette phase-là est terminée. C'est-à-dire que l'Italie est redevenue un pays d'émigration. Et vous entendez parler italien dans beaucoup de rues françaises, etc. C'est clair. Et il y a beaucoup de disciplines, je pense en particulier à toutes les disciplines de l'enseignement, de la recherche, où, comme il n'y a plus aucun poste dans la recherche universitaire en Italie, plus aucun fonctionnaire dans l'enseignement qui est recruté, un jeune Italien qui a une bonne formation pour être enseignant de tout ce que vous voulez, d'histoire, de mathématiques et tout, il va tenter sa chance dans le reste de l'Europe. Donc il va partir. Alors lui s'en va, puis d'autres s'en vont, et donc de toute façon, il y a moins d'enfants, et donc il y a une espèce d'appel d'air qui est classique, on l'a connu en France dans les années 20, hein, il y avait beaucoup moins d'enfants parce qu'il y avait eu beaucoup de papas qui étaient morts à la guerre, donc à ce moment-là, on ouvre les vannes. Mais l'immigration, ça sert toujours à ça, c'est-à-dire, il y a un problème immédiat, on ouvre la fenêtre, et puis après, le problème est réglé, on referme. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'on aime les immigrés, pas du tout, hein, on ne les aime pas. Donc ça, c'est le contexte démographique. Alors, il est propre à l'Italie, il est propre aussi à l'Espagne, c'est la même évolution. La France avait échappé jusqu'à, en gros, au premier mandat de Macron. Ça s'est joué là. Là, elle avait échappé au phénomène, c'est-à-dire elle restait avec l'Irlande, pour des raisons assez différentes historiquement, le seul pays où la population continue à progresser et où ce qu'on appelle la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants, était au-dessus de 2. Donc il y avait un renouvellement plus qu'assuré, même une progression assurée. Bon, c'est fini. On est sorti de ce taux de fécondité et donc aujourd'hui, la France n'est plus en capacité de reproduire les générations. Hein, on est en dessous de 2, on est sur la pente italienne, mais avec beaucoup de retard, enfin, plusieurs années de retard. Mais on y est. Et donc, les mêmes problèmes vont se poser, c'est-à-dire qu'il va manquer d'enfants pour tout un type de travaux. Alors, je ne parle pas de la recherche universitaire, mais pour tout type de travaux, et y compris les plus désagréables. Parce que dans la mesure où les employeurs français disent « je manque de main-d'œuvre, je cherche des gens que je ne trouve pas », ben à ce moment-là, celui qui a des compétences à faire valoir, des diplômes à faire valoir, essaye de les faire valoir, et plutôt que d'aller faire la vaisselle dans un restaurant à kebab, évidemment. Donc c'est ça, c'est ce piège dont le patronat italien et dont le patronat veulent sortir. Ne pas avoir un jeune qui a des compétences, qui veut avoir une vie normale, c'est-à-dire pas faire 60 heures par semaine, poser des conditions ou dire « Ah, si c'est comme ça le travail que vous m'offrez, je ne viens pas ». Parce que après, ces messieurs pleurent. « Ah, mais personne ne vient, personne ne vient ». Mais attendez, mettez les chiffres quand vous pleurez à la télévision. Mettez un chiffre, vous lui donnez combien à l'heure, combien de repos hebdomadaires, est-ce qu'il peut prendre ses congés, etc. etc. Soyez clair, hein, soyez clair. Vous ne l'êtes pas toujours. Et surtout pas dans vos expressions collectives. Alors, on va héroïser, je veux dire, un tel patron de boulangerie qui va dire « Moi, j'ai un jeune Africain qui est venu dans ma boulangerie, il travaille bien, on s'entend bien, il bosse comme moi, il fait les mêmes horaires et tout, il a sauvé ma boulangerie. » Ça, on va vous le mettre en lumière. Mais c'est le cas exceptionnel, à la limite. On va avoir un patron français qui n'a pas surexploité son travailleur immigré et qui, au fond, c'est devenu un ami. Mais ça, c'est des rapports qu'on peut avoir dans une boulangerie, qu'on peut avoir dans une petite entreprise, dans un garage et tout, qu'on n'a pas dans une grosse entreprise. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Bon. Donc, attention aussi de ces images qu'on nous véhicule. Alors, moi, je suis très content que ce boulanger dise « il a sauvé ma boulangerie, autrement je fermais », bien entendu. Hein, et je pense qu'il saura s'en souvenir au moment, si jamais la boulangerie a des difficultés, il faut savoir qui licencie l'autre. Ça reste. Alors, je ne le souhaite pas pour eux, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais c'est comme ça que ça se passe, les rapports dans le droit du travail. Bien. On est un peu dans l'international quand même, hein, l'air de rien, mais on parle de choses très concrètes. Alors, je voulais parler un petit moment de l'Allemagne. L'Allemagne va mal. L'Allemagne va mal à différents points de vue. Au point de vue démographique, je redis ce que j'ai dit pour l'Italie, c'est même pire. Alors, elle a essayé de compenser du temps d'Angela Merkel en ouvrant ses frontières, on s'en souvient, parce qu'il y avait déjà, il manquait beaucoup de monde ici. Alors, pas tellement dans les services à la personne ou dans la restauration, mais dans les usines. C'est-à-dire que la capacité exportatrice de l'industrie allemande était fragilisée par le fait qu'on ne trouvait plus assez d'ouvriers. Bon. Donc, l'ouverture de Mme Merkel, c'était laisser rentrer des ouvriers. Fussent-ils tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Ça c'est passé parce qu'il y a quand même eu certaines réactions dans la population allemande, cette arrivée massive, mais pas si grave que ça. Ce qui se pose, c'est que l'Allemagne est en crise économique. Donc la crise démographique, elle est là. Les Allemands ont très très peu d'enfants, les couples allemands ont très très peu d'enfants. La crise économique est là, c'est-à-dire que le PIB de l'Allemagne va diminuer en 2023 et ne remontera pas probablement l'année prochaine. Et donc effectivement, les perspectives sont sombres. Et en même temps, et c'est à ce moment-là que l'Allemagne, je le dis, je pèse mes mots, l'Allemagne devient un pays dangereux. L'Allemagne, quand elle va bien, qu'il y a du travail, qu'elle exporte, que les caisses sont pleines, etc., l'Allemagne reste paisible. et elle est aimable avec ses voisins de l'Union européenne. Quand l'Allemagne se sent mal à l'aise, avec moins d'enfants allemands, ces vagues d'immigration qui bouchent un trou temporaire, cette économie qui faiblit, les exportations qui baissent. Il faut savoir que les exportations de l'Allemagne vers la Chine ont chuté dramatiquement. Et il faut savoir aussi que la Chine produit tellement de voitures qu'il n'y a plus de raison tellement que les Chinois achètent des voitures allemandes. Bon, ça s'est fait, il y a encore un certain chic de la Mercedes et de l'Audi, mais enfin, ça c'est terminé. Et donc l'Allemagne, dans ces moments-là, devient, et je le dis, je pèse mes mots, souvenons-nous de deux guerres mondiales, l'Allemagne, dans ces conditions-là, devient dangereuse. Parce qu'elle se sent enfermée dans un rôle secondaire qu'elle n'aime pas, et elle se met à dire, il faut que je réagisse.
Et j'aimerais qu'on dise par quoi elle est causée actuellement, cette crise.
Voilà. Alors, il y a effectivement le point de départ, ce qui a accentué la crise démographique, elle y était. Ouais. La crise économique, ce qui l'a provoquée, c'est la fermeture des robinets pour le gaz russe. C'est à l'évidence. Puisque les usines qui fonctionnaient, ou les centrales thermiques qui fonctionnaient avec du gaz russe, fonctionnent maintenant avec du gaz venu des États-Unis par bateau et qui coûte beaucoup plus cher. Donc, ça alors, il n'y a rien à cacher, puisque des grosses industries comme la BASF, la plus grosse des entreprises chimiques allemandes, qui a une longue, longue histoire, a déclaré qu'elle ne pouvait pas, à ce prix-là du gaz, continuer à faire tourner des usines en Allemagne. Bon, donc, ça, tout ça est parfaitement clair, on le sait.
Je pense que c'est du gaz liquéfié qui coûte
qui arrive par bateau, qui est beaucoup plus cher. Et donc, effectivement, les industries allemandes sont confrontées à une crise du prix de l'énergie. Et ça, c'est le résultat. Vous faites sauter deux gazoducs, le gaz n'arrive plus. Ça, on a bien compris le schéma, et les Allemands ont compris aussi. Mais comme ils sont très contents, apparemment, puisqu'ils n'ont pas protesté contre le plasticage des gazoducs, ils cherchent des excuses, mais ils n'en ont pas en réalité. Bon, donc l'économie faiblit, l'industrie faiblit, l'économie faiblit. Bon. À qui s'en prendre à ce moment-là ? Alors, et c'est là que les mauvais démons de l'Allemagne, parce que je pèse mes mots, c'est important de dire ces mots-là, parce que ces mots-là, pour la majorité des Français qui nous écoutent aujourd'hui, ne pèsent pas lourd. Mais les démons de l'Allemagne, pour ceux qui ont un peu plus d'âge, et si vous en avez parlé à vos parents, à vos grands-parents, les démons de l'Allemagne, ça existe. Ça existe et ça peut prendre des formes extrêmement mortifères. Alors, regardez, vous avez peut-être des gens de votre famille, lointains, des pères, des arrière-grands-pères, dont les noms sont sur des monuments aux morts dans un petit village de je ne sais où en France. Faites parler aussi les moins anciens qui vous expliqueront ce que c'était que l'occupation nazie de la France. Et là, vous aurez, et je ne cherche pas du tout à dramatiser, je ne fais pas de l'anti-allemand de base, mais vous aurez quand même une réflexion qu'on a tendance à gommer et qu'on a eu tendance à gommer en disant la France et l'Allemagne s'entendent bien. Souvenez-vous, le couple franco-allemand, comme on vous a dit ça pendant toutes ces décennies de croissance de l'Union européenne, le couple franco-allemand, c'est le lien solide qui tient l'Europe ensemble. Mais quand il y a un des deux du couple qui décide que son avenir est prioritaire par rapport à l'avenir du couple, eh bien celui-là, il fait ce qui intéresse son avenir à lui, c'est-à-dire l'avenir de l'Allemagne. Et l'avenir de l'Allemagne, il est dans sa géographie, c'est-à-dire l'avenir de l'Allemagne, dans la mesure où elle peut pas, elle vend moins à la Chine, son industrie coûte cher, donc elle va exporter moins, et ça consiste à dire, je suis à l'étroit, souvenez-vous, je suis à l'étroit, ça s'appelle dans le langage nazi le Lebensraum, l'espace vital. Et donc, je me mets à donner de la tête dans tous les sens. C'est ce qui est en train de se passer. Alors, on ne le dit pas, on est très poli dans les médias et tout, mais dans les dernières prises de position du chancelier allemand, il y a ça. Il y a ça, et il y a derrière un budget pour la guerre de 100 milliards d'euros. C'est-à-dire deux fois le budget militaire de la France. Alors, pas à dépenser dans les trois mois qui viennent, mais c'est prévu. Et c'était tellement gros à faire passer qu'à un moment donné, la chambre, l'espèce de cour, on peut appeler ça, le conseil... c'est l'équivalent du... une espèce de conseil de surveillance, la magistrature suprême, disons, je ne vous le dis pas en allemand, a dit que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas tout d'un coup augmenter le budget comme ça, et surtout qu'on allait rentrer dans un système déficitaire, alors que l'Allemagne disait, moi, mon budget n'est jamais en déficit. Bon, Il faut savoir que le budget de l'Allemagne va être déficitaire à cause de l'accroissement des dépenses militaires. Ouais. Où vont aller ces dépenses militaires ? Et c'est, alors c'est là. Alors c'est pas pour attaquer l'Alsace et la Lorraine, j'espère que l'idée leur reviendra pas. Mais il est clair, et ça a déjà été dit. Ça a été dit en particulier par Scholz, ça a été dit par son vice-président qui est un des Verts, hein, et puis ça a été dit par sa ministre des Affaires étrangères qui est une écolo, elle aussi. L'ouverture de l'Allemagne, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine parce que, comme du temps du Troisième Reich, s'approprier l'Ukraine ou un morceau de l'Ukraine, c'est s'approprier des terres à blé, des usines, des minerais, du fer, du charbon, etc., et un espace énorme. C'est parce que l'Ukraine, vous le savez, est plus grande que la France. C'est un grand pays sur le territoire européen. Bon. Et pour rentrer dans le jeu ukrainien, ben, il faut trouver des arrangements avec le gouvernement ukrainien actuel. C'est-à-dire qu'on en arrive à cette situation extraordinairement paradoxale et même inquiétante. C'est-à-dire que le gouvernement Scholz est en train de chercher l'appui et de chercher à nouer une alliance profonde avec un gouvernement dirigé par d'anciens nazis, par les descendants de nazis. Et là, on se dit, quand alors un gouvernement allemand démocratique, unifié, puisqu'il y a trois partis, etc., en est à chercher une alliance et avoir des ambitions et même des appétits sur un pays qui est dirigé par les héritiers des nazis les plus connus, l'Ukraine, on se dit que l'Allemagne est en train de faire fausse route et qu'elle ne se préoccupe pas du tout de ce que d'autres pays de l'Union européenne peuvent en penser. Ça amène à des réactions comme ce que je vous citais, la réaction de la Pologne par rapport au vaccin, parce que j'ai simplifié, mais en fait la réaction de la Pologne au vaccin, c'est de dire Madame von der Leyen, la commissaire européenne qui est l'expression des intérêts allemands au niveau de l'Union européenne, nous dit d'acheter 60 millions de doses à Pfizer et on en a assez de ce genre d'ordre. Hein, bon. Vous voyez tout ça. Donc réfléchissez, regardez bien, ouvrez bien les oreilles, parce que ce n'est pas un sujet qui va être débattu, et surtout pas pendant la campagne des élections européennes, alors qu'il est central. Et on va éviter par tous les moyens de parler de ce sujet-là. Où va l'Allemagne ? C'est-à-dire, et on voit très bien où elle va. Si on veut ouvrir les yeux, on voit très bien où elle va. Voilà, je veux dire ça parce que c'est important pour la suite des événements et ça occupera une bonne partie des actualités pendant le premier semestre de 2024 puisque les élections au Parlement européen ont lieu en juin. Et je rappelle à cette occasion que le Parlement européen n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire, on va vous faire assister à des débats très enflammés sur l'avenir de l'Europe, si et ça et tout. Vous allez élire des gens qui seront bien payés, qui travailleront quand ils auront envie, pas tous d'ailleurs, et qui voteront des textes à contenu idéologique principalement, anti-russe, même quelquefois anti-français, mais surtout anti-russe, on a confiance, pro-ukrainien, quel que soit le régime à la tête de l'Ukraine, etc. Et pro ?
Pro-Israël ?
Et pro-israélien, oui, ça, oui. Voilà, pour parce que tout
c'est
ça va
tous,
avec.
D'ailleurs.
Tout ça va avec, voilà. Alors, tout ce genre de discours va être tenu. On vous dira, le Parlement européen a voté une motion, ceci et cela, de soutien à Israël, de soutien à ci et ça, et tout. Ce Parlement n'a aucun pouvoir. Simplement, il a le pouvoir de vous mettre dans l'esprit des idées fausses. Et vous mettez 600 personnes, c'est payé 7000 euros par mois avec des moyens de transport, des assistants parlementaires et tout, dont la seule fonction, c'est de vous remplir la tête de fariboles, eh bien, ils font leur boulot. On leur demande rien d'autre, et surtout pas de gouverner l'Europe. Ils n'en ont pas le pouvoir, c'est pas écrit dans les textes jusqu'à présent. Voilà, ça, c'était mon introduction, qui n'est plus qu'une introduction, parce que c'était une mise en jambe pour le premier semestre 2024. Et puis, on va revenir à nos actualités plus immédiates. Alors, l'actualité la plus immédiate, vous ne la voyez pas, mais j'ai une petite carte sous les yeux où on montre que le porte-avions Eisenhower a bougé. Alors, non, je suis comme ça un petit peu ambigu. Alors, le porte-avions Eisenhower, qui est un des deux porte-avions des États-Unis qui était en train de surveiller ce qui se passe en Palestine, ouais. Lui, il était dans le golfe Persique.
Oui.
Donc, c'était pour faire peur aux Iraniens, clairement. Bon. Et en fait, eh ben il a bougé ces derniers jours et il est à l'entrée de la mer Rouge, Tiens, comment ça se fait ? Alors, il est
je voulais, c'est vrai qu'on alors, en parle de ce Babel Mendel, voilà, qui est très important.
Alors, l'entrée de la mer Rouge, c'est un passage étroit, c'est la porte, le Bab. Bab, c'est la porte. Donc, c'est la porte de la mer Rouge. Et il est là, alors, il n'est pas tout seul, puisqu'un porte-avions, ça ne circule jamais tout seul. Il y a des croiseurs de grosse taille, il y a des frégates, il y a beaucoup de monde.
Il y a même les Français, les Anglais.
Et pourquoi tout ce beau monde vient se mettre là à l'entrée de la mer Rouge ? Parce que la mer Rouge est devenue un endroit dangereux. Ah, qu'est-ce qui se passe en mer Rouge ? Ben, il se trouve que tout de suite, en montant à droite, je suis la carte, vous avez un pays qui s'appelle le Yémen. Et là, cette partie-là du Yémen, il y a une partie qui donne sur le golfe d'Aden et la partie qui donne sur la mer Rouge, elle est tenue par les Houthis, par le mouvement Ansarullah. Et les Houthis, qui sont en guerre contre l'Arabie saoudite, qui veut les éliminer de la situation et de la scène internationale, se sont équipés petit à petit pour ne pas être écrasés par l'énorme machine militaire saoudienne. Alors je dis, elle est énorme en taille, il y a d'énormes moyens, il y a de l'équipement de très très haute qualité. La capacité militaire de l'armée saoudienne n'est pas jusqu'à présent, n'a pas ébloui quiconque. Mais il y a beaucoup de moyens malgré tout.
Oui.
Et donc les Houthis ont été obligés de se mettre à un niveau militaire assez élevé avec beaucoup plus petits moyens et ils ont mis au point en particulier
en peu de temps
toute une série de drones et d'armes comme ça balistiques courtes qui permettent d'intervenir sur la navigation dans la mer Rouge. Et c'en est au point où, effectivement, alors on a cité déjà des arraisonnements, des choses comme ça, ça s'intensifie. C'en est au point, alors le résultat est tout à fait clair, outre le fait qu'il y a des porte-avions, des frégates, des croiseurs, etc., de toutes les nationalités qui s'agitent autour de cette entrée de la mer Rouge, il y a un certain nombre de compagnies, les plus grandes compagnies mondiales de transport maritime, qui disent... On ne passe plus par là. Hein, on ne veut pas avoir un compte
porte-container.
Voilà. Alors, vous avez le MSC, CMA, Maersk. Enfin, les plus gros armements qui transportent des containers entre, en gros, l'Asie et l'Europe ont décidé de ne plus passer par la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre. Ils ont peur des Houthis. Tenez-vous bien, ils ont peur des drones Houthis. Ça a l'air de rien, c'est pas croyable. C'est quelques millions de personnes là, qui sont encore de la quincaillerie avec leurs petits drones. Et bien voilà, le commerce mondial est entravé par les Houthis.
Mais ils s'en prennent pas à tout le monde, c'est bien entendu qu'il faut préciser.
Bien entendu. Alors en plus, il y a en fait une partie des bateaux qui remontaient donc du sud de Bab el Mandel vers le nord, qui allait vers le port israélien d'Eilat. Et qui apportait, tiens, par exemple, de l'armement, des provisions au gouvernement israélien.
L'économie israélienne qui est en péril.
Donc l'économie israélienne en souffre d'ores et déjà. Le directeur du port d'Eilat pleure, parce que son chiffre d'affaires a baissé de 80%. Mais oui, s'il n'y a plus de bateaux, il ne fait pas de recettes. Hein. Donc, vous voyez, ces tout petits outils, l'air de rien, sont en train de porter un coup grave à l'économie mondiale du transport. On en a beaucoup parlé, vous savez, il y a, trois ans, il y avait un porte-container de Evergreen qui s'était mis en travers du canal de Suez. Ça a duré 8 jours. Et déjà, l'économie maritime était totalement bouleversée. Oui. Et puis ça a mis des semaines et des semaines avant qu'elle retombe un peu dans son état normal.
C'est exact.
Là, ça y est, on a la même chose qui se passe. Mais évidemment, ça dérange beaucoup les chroniqueurs européens et les chroniqueurs français de dire « Ah, vous voyez, c'est ces pauvres petits outils dans un pays qui n'est pas très riche, et même le plus pauvre de la région, qui réussit à entraver le commerce international. »
Et on a envoyé un grand monsieur au Moyen-Orient, M. Houston, qui est, je crois, ministre de la Défense américaine,
Et oui, parce qu'il y a un problème réel. Tout est compliqué. Comme il y a des questions d'argent, et ça, c'est le capitalisme, ils perdent de l'argent, ils paniquent. Alors, on ne vous dira pas. Alors, pourquoi les Houthis font ça ? Les Houthis font ça parce qu'ils continuent leur lutte contre le régime saoudien. Et puis ils font ça parce qu'ils savent très bien qu'ils le sont, et ils le disent, ils sont pro-palestiniens et qu'ils n'acceptent pas. Et leur réaction, est une réaction de solidarité avec la lutte
contre l'impérialisme. Et voilà.
Donc c'est parfaitement clair. Vous voyez comme quoi, quelques petits drones comme ça, un ou deux arraisonnements. Alors après, on vous dira, oui, mais l'aviation américaine a détruit 2-3 drones yéménites, peut-être.
Non,
oui,
ils ont dit l'aviation française.
Ou l'aviation française. Alors ce qu'il faut savoir après, alors, quand on regarde un peu du côté des spécialistes de l'armement, c'est que quand on est un petit pays comme le Yémen, qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on fabrique des drones qui coûtent 20 000 $ pièce ou 20 000 euros.
Et que
quand on est un navire états-unien qui tire des drones comme ça, c'est des drones à 200 000 dollars. Ça coûte vite beaucoup plus cher. Hein. Oui. Même chose pour les drones
même
israéliens.
Même pour intercepter ce drone outil, la France a déjà dit combien ça coûtait. Ça leur coûtait plus de 10 drones.
Ils sont 10 fois plus chers. Ouais. Et donc, effectivement, quand vous avez... C'est pour ça que M. Scholz, il veut augmenter son budget de la défense aussi. C'est-à-dire, au prix où sont les drones, hein, bon, ben, parce qu'effectivement, on évite de mettre des combattants vivants sur l'opération. Et donc, au prix où sont les drones, on commence à calculer. Et ce n'est pas possible, à longueur de journée, de tirer des drones à 200 000 euros la pièce.
Moi, je voudrais dire que les outils, ils n'en veulent pas aux autres pays qui peuvent passer par Bab el-Mandeb.
Ah, bien sûr.
C'est surtout Eliat, qui est le port israélien, voilà. C'est le poumon de l'économie israélienne. Et que
exactement.
Et d'ailleurs, leur problème, c'est lutter pour la Palestine.
Les outils, et c'est clair, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Là-dessus. Ouais. Donc là, on a des effets du conflit palestinien qui sont importants et qui touchent directement les capitalistes à la caisse. C'est-à-dire quand vous avez CMA, MSC, Evergreen et OCL, etc., je ne donne pas la liste complète, ouais, qui disent on perd du chiffre d'affaires, il faut savoir que quand les Houthis ont commencé à tirer leurs drones, il y avait 50 bateaux de la CMA dans la mer Rouge. Certains qui montaient, d'autres qui descendaient, certains qui allaient en Afrique orientale, d'autres qui allaient en Inde, d'autres qui allaient au Japon, etc. 50 bateaux qui, là, doivent être en train, ils doivent attendre des consignes pour savoir, alors, chef, on descend par le cap de Bonne-Espérance, comme on a fait au temps de la fermeture du canal de Suez. Ça équivaut, en fait, à une fermeture importante ou partielle du canal de Suez.
Ça revient très, très cher.
Alors, quand il faut faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, effectivement, ça augmente beaucoup la durée, ça augmente beaucoup la consommation de gasoil, ouais, etc. Ça pose des problèmes de congés pour les équipages, etc., etc. Donc, on a, après quelques drones outils, un début de désorganisation de l'économie internationale. C'est pas rien. Et ça, c'est en solidarité avec le combat des Palestiniens. C'est parfaitement clair.
D'ailleurs, ils l'ont dit, si les Israéliens arrêtent la guerre, nous, on arrête.
On laisse passer.
On laisse tout
la passer. Navigation reprend.
Voilà. Parce que moi, j'ai écouté LCI, ils disent que des bêtises et des conneries. C'est malheureux.
Bien sûr. Alors voilà, c'était une première approche de la situation en Palestine telle qu'elle évolue. Alors, elle évolue sur le terrain avec énormément de morts, bien sûr, du côté des Gazaouis, ça c'est tout à fait clair. On est au-delà de 20 000, et on sait peut-être pas tout. Ce qu'il faut dire, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a le fait que le combat de l'armée israélienne sur le territoire de Gaza est un combat difficile, très difficile.
Jusqu'à présent, ils n'ont pas...
Et ça commence à se dire, y compris dans l'état-major israélien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à pénétrer sur la totalité du territoire de Gaza. Et là où ils sont un peu arrivés, leur vie est complètement différente et difficile. C'est ça que je voulais dire. Alors, ils ont réussi pour l'instant à faire juste une petite coupure entre Gaza et Khan Younis, entre la ville la plus nord et la ville qui est au milieu. Bon, il y a un endroit où il y a apparemment plus de résistance palestinienne. Mais que ce soit du côté de Gaza, donc au nord, que du côté de Khan Younis, la résistance est extrêmement forte. Et donc, il y a beaucoup de pertes dans l'armée israélienne, il y a beaucoup de blindés qui sont détruits, et donc, effectivement, la progression de l'armée israélienne est quasiment nulle. Et quasiment nulle après qu'ils aient tout détruit. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Le danger humanitaire est réel, puisqu'en fait, maintenant, on a une population gazaoui qui vit sous des tentes, dans des conditions de fortune, avec des risques d'épidémie, etc., etc. Donc il n'y a plus de ville, il n'y a plus que des détritus, des décombres, etc. Mais en même temps, au niveau du combat militaire, l'armée israélienne n'est en aucune façon victorieuse. Elle a de grosses, grosses difficultés. Et en plus, on a ce rapport classique entre une armée hyper technicisée, qui est à l'habitude de se promener, comme on dit, de faire ce qu'elle veut partout, face à une armée de guérilla qui n'a pas de chars d'assaut, qui n'a pas de drones, qui n'a rien, bon, qui a juste des moyens de tir limités.
Et ils font beaucoup d'erreurs, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire qu'il y a eu trois soldats israéliens qui ont été, trois otages, qui ont été tués par l'armée israélienne.
Par l'armée israélienne, bien sûr.
Et un consul français qui se trouve, je crois, à Gaza,
oui.
Lui aussi, il a été tué.
Voilà, donc ça se passe pas si bien.
Oui.
Voilà. Autre chose qu'il faut signaler, c'est que le personnel de l'UNRWA, hein, donc l'organisme de l'ONU qui est chargé de s'occuper de la santé et même de la survie des Palestiniens, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, partout, les employés de l'UNRWA sont des employés de l'ONU. On est déjà à plus d'une centaine d'employés de l'ONU assassinés par l'armée israélienne.
Oui.
Et donc, nécessairement, l'ONU se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Moi, je suis là pour de l'humanitaire, je suis là pour donner à manger, pour essayer de loger, de protéger, de soigner. Et on tue le personnel de soins. Donc, c'est un acte anti-humanitaire, clairement. Bon. Ce qui explique mieux déjà le changement de position du secrétaire général de l'ONU qui dit maintenant, je ne peux pas ne pas protester en disant que ce que j'essaye de faire, c'est juste de l'humanitaire, je n'interviens pas dans le conflit israélo-palestinien, mais qu'on ne tue pas mes salariés. Laissez mes salariés faire leur travail, ils sont là pour donner à manger, pour donner des soins, pour, quand ils en ont le temps, mais ce n'est plus le moment, faire de l'éducation, ouvrir des écoles et tout. Vous me interdisez de faire ça. Je ne peux plus le faire puisque vous tuez mon personnel. Alors moi, je serais M. Guterres, effectivement, je dirais, maintenant, ça suffit. Qui vous êtes pour vous permettre ça ? Et alors vous êtes, en plus, je pourrais dire à Israël, mais je ne suis pas, et je ne serai jamais secrétaire général de l'ONU, je pourrais dire à Israël, écoutez, je ne vous veux plus. Qu'est-ce que vous faites à l'Organisation des Nations Unies ? Vous massacrez les fonctionnaires de l'ONU ? Mais dehors ! Je ne vous donne plus la parole. Interdit de vote, je ne dis pas exclu, mais interdit. Vous êtes malhonnête. Bon, je rêve, bien entendu. Mais à cette période, on fait des rêves, vous savez, c'est les rêves de fin d'année pour les vœux de 2024. Mais ceci étant, M. Guterres a quand même mis pas d'eau dans son vin, c'est l'inverse. Il a quand même fini par comprendre que, et il l'a dit d'ailleurs, que la question palestinienne n'avait pas commencé le 7 octobre 2023, qu'elle datait depuis bien, bien longtemps. Bon. Et rien que ça, déjà, c'est comme s'il avait dit un énorme mensonge. Il n'a fait que dire la vérité historique. J'insiste là-dessus.
Et d'ailleurs, le délégué israélien, il a pris le rapport de Nations Unies, il l'a déchiré.
Voilà, voilà.
Oui, alors, il me semble que Guterres s'est fait menacer par Israël.
Ah oui. Ils ont demandé sa démission. Ouais. Ils ont demandé sa démission. Mais oui, ça, il est... Alors, c'est très intéressant, cette réaction d'Israël. Ça veut dire, jusqu'à nouvel ordre, l'ONU pouvait dire et faire n'importe quoi. Hein, on faisait, nous, ce qu'on voulait. Protégé par le parrain de Washington. Il faut ajouter quand même, parce que c'est quand même très très important. Alors, ils disent, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On nous fait des observations ? Mais il vous fait des observations parce que vous êtes hors la loi, c'est tout. Ah bon ? Mais ça, ils n'acceptent pas d'entendre. Ça fait 75 ans qu'ils désobéissent à l'ONU.
Exact.
Depuis le début. Ah. Et donc, effectivement, la mauvaise habitude a été prise, elle est ancrée dans la population, chez les journalistes, etc. On n'obéit pas. L'ONU, c'est... une structure qui parle beaucoup, mais qui fait rien. Hein. Sauf qu'effectivement, il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui seraient morts si l'UNRWA n'avait pas été là pour leur apporter de la nourriture, les soigner, etc. Hein, que ce soit en Palestine même, au Liban, en Syrie, partout où il y a des réfugiés palestiniens. Bon. Ça compte pas. Ces messieurs étaient maîtres du jeu, l'ONU était à leurs genoux, à leurs pieds, et donc ça devait continuer. Bon, c'est en train de se terminer. C'est en train de se terminer et ça m'a amené à faire un petit retour sur la question de la genèse du partage de la Palestine. Parce qu'au fond, tout part de là et surtout les mensonges qui sont véhiculés à ce sujet-là. Alors j'explique. Alors on part, pour faire simple, de Sykes-Picot, donc ces deux diplomates, un britannique, un français, qui, après plusieurs réunions d'ailleurs, en 1917, au début de 1917, publient une déclaration, un communiqué commun des deux pays qui sont à l'époque les deux plus grandes puissances coloniales, qui sont en train de préparer le partage des dépouilles de l'Empire ottoman qui est contre eux dans la Première Guerre mondiale et dont on voit l'effondrement se profiler, c'est à peu près sûr. Hein. Donc on est déjà en 2016, ils y voient clair, et en 2017, ils finissent par accoucher d'une déclaration qui dit ben, « voilà ce qu'on va faire à cet endroit-là du monde où les Ottomans vont s'en aller, on leur laissera juste la Turquie et tout le reste ». Il faut savoir que l'Empire ottoman couvre la quasi-totalité du monde arabe à l'époque. Au moment du début de la Première Guerre mondiale. Hein, donc Syrie, ce qui n'est pas encore le Liban, la Palestine, l'Égypte, l'Arabie saoudite, etc. Donc il dit, on prépare la suite. Et donc ça, c'est début 1917. À la suite de quoi ? Et donc là, le partage est déjà assez clairement entériné, c'est-à-dire que la France dit, moi, je prends la partie nord, hein, donc la Syrie, et puis la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, plutôt, prend le reste, c'est-à-dire la Palestine, l'Égypte, tout ce qu'il y a plus au sud.
La Jordanie.
Et la Jordanie. Et puis, on en arrive à un autre événement qui a lieu la même année, mais quelques mois après, et qui a été rendu possible précisément parce que ce découpage géographique des deux petits empires a été réalisé, et donc ils ne vont pas se battre là-dessus, puisqu'ils sont d'accord. Chacun a son morceau, on n'en parle plus. Hein, et c'est autant que les Ottomans ne garderont pas. À la fin de l'année 1917, on a un nouveau document qui sort et qui s'appelle la déclaration Balfour. Alors la déclaration Balfour, donc, elle est signée par monsieur le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui a été Premier ministre déjà quelques années auparavant, et par un certain, je crois que c'est Alexandre Rothschild, je crois que c'est ça le prénom de Rothschild, enfin, donc qui est le chef Rothschild. De la banque Rothschild au Royaume-Uni, qui est un juif... Claire, qui habite au Royaume-Uni depuis longtemps, qui fait ses affaires tranquillement, il n'y a pas de problème. Bon, il est dans cette opération le porte-parole du lobby sioniste, parce qu'il faut appeler ça comme ça, c'est-à-dire le lobby sioniste dont l'idée remonte à la fin du 19e siècle, dans les années 1880 par là. Le lobby sioniste, c'est un groupe de juifs qui disent qu'il faut qu'il y ait un endroit pour que les juifs qui sont maltraités, et c'est la réalité sur une bonne partie de l'Est de l'Europe. La France y a échappé, mais on a quand même eu l'affaire Dreyfus, qui veut dire que quand même il y avait des problèmes de ce côté-là. Mais le plus gros de la souffrance des populations juives d'Europe, c'est dans l'Europe de l'Est. Hein. Pologne, Tchécoslovaquie, Russie tsariste, effectivement, où il y a des pogroms, où les juifs sont enfermés dans des villages à la campagne, les shtetl, où ils n'ont pas le droit d'aller en ville, ils n'ont pas le droit de cultiver la terre. Enfin, bon, ils sont vraiment très, très mal traités. Et donc, l'idée c'est de ce lobby sioniste, c'est de dire qu'il faudrait que ces gens-là, qui sont maltraités depuis longtemps, et ça ne s'arrête pas dans toute cette partie-là de l'Europe, soient accueillis quelque part.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Bon, là, jusqu'à présent, quoi dire de plus ? Il y a un vrai problème, alors ça serait mieux effectivement qu'ils soient bien traités dans la Russie des Tsars, qu'ils soient bien traités en Pologne, mais dans la mesure où ça n'a pas l'air de se présenter, chercher un endroit où ils pourraient s'installer, ce n'est pas une idée complètement sotte. Encore faut-il choisir un endroit où ça ne gêne pas les gens qui y sont déjà. Et c'est là que ça devient assez inquiétant, puisqu'au fond, on a parlé de l'Ouganda, du Kenya, de Madagascar. Enfin, il y a eu plein de noms évoqués. Et finalement, grâce à cette déclaration de Lord Balfour à M. Rothschild, il est décidé que ce sera en Palestine. Ah bon, tiens, pourquoi en Palestine ? Alors, ben c'est très simple, parce qu'en Palestine, alors c'est petit, ils sont pas nombreux, les natifs, hein, c'est 1,5 million de personnes à peu près, 1,5 million, rien du tout. Ouais. Ils sont pauvres, c'est une économie agricole, bon, ils vont pas pouvoir protester. Et l'Angleterre est complice de cette option-là, puisque Lord Balfour écrit à M. Rothschild, il y aura un foyer national juif sur le territoire de la Palestine. Voilà. Bon, il l'écrit, on est en 17, et il écrit, on peut dire, ça ne vaut rien du point de vue du droit international, rien du tout. C'est une lettre comme un ministre des Affaires étrangères peut en envoyer pour faire plaisir à qui il veut tout le temps. Ça n'est pas du droit, ça ne règle rien. Mais ça dit très bien la politique qui va être suivie et qui va être suivie et produire des effets jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là-dessus que je veux insister. La politique qui va être suivie, elle va être très très claire. C'est-à-dire que la guerre, Première Guerre mondiale, s'achève. Il va se créer à l'issue de la Première Guerre mondiale la Société des Nations. Idée, alors, des États-Unis et du président Wilson, qui est venu lancer son projet lui-même à Versailles au moment de la négociation des traités mettant fin à la Première Guerre mondiale. Et la Société des Nations, en 1922, confie un mandat à deux pays, la France, bien sûr, et la Grande-Bretagne, enfin, le Royaume-Uni plus exactement, sur une partie de ce territoire. Alors la France, elle a le mandat sur la Syrie, et la Grande-Bretagne a le mandat sur la Palestine. Ça veut dire quoi, le mandat? Ça veut dire, et c'est tout à fait clair dans les positions et dans les décisions de la Société des Nations, on a affaire à des sociétés qui ont vocation à s'émanciper, à devenir libres. On va simplement les aider à faire cette transition entre l'État dans lequel ils se trouvent, après avoir été beaucoup colonisés par l'Empire ottoman, et maltraités par les Ottomans, c'est vrai, pour qu'ils accèdent à l'indépendance, qu'ils deviennent des pays souverains, tous les deux, hein, aussi bien la Syrie, aussi bien la Palestine.
La Grande Syrie,
oui. La Grande Syrie, voilà. Jusque-là, quoi dire, hein, la Société des Nations dit, voilà, hein, elle pourrait dire, ils seront indépendants dans 5 ans. Non, ils laissent le temps au temps, comme on dit. Ils disent, voilà, vous avez ce mandat et il faudra à un moment donné que vous donniez, vous laissiez s'envoler ces deux oiseaux une fois qu'ils seront bien sortis du nid. C'est ça l'idée. Bon. Alors la France va le faire... plus ou moins bien, parce que quand même, elle ne sera pas très très tendre avec les diverses populations.
Elle a commis une grosse erreur aussi. Oui, hein, voilà. Je ne sais pas s'il faut en parler. La province de l'Oise Candaroune, qu'ils ont cédé ça à l'Empire ottoman.
Ça a été tout à fait à la fin, oui. Donc d'une part, elle va couper le Liban de la Syrie, c'est-à-dire couper la minorité chrétienne du reste de la population. Ouais. Et puis à un moment donné, pour se faire bien voir du régime... turc qui n'est plus ottoman, pour éviter que ce régime entre en guerre. On peut dire que la Turquie a exercé une espèce de chantage sur la France en disant « Ou vous me donnez la province d'Alexandrette, donc Iskenderun en turc aujourd'hui, ou bien je rentre en guerre contre vous ». Et donc, effectivement, la France a lâché un morceau de la Syrie qu'elle a donné à la Turquie, qu'il a encore.
Qui est très, très riche.
J'allais dire, c'est moindre mal par rapport à la question de la Palestine.
Ah oui,
Bon, alors, ça ne blanchit rien, mais c'est moindre mal. Alors, qu'est-ce qui se
passe? Mais remarquez, les Turcs, ils ont fait exactement pareil que les sionistes. Hein.
Bien sûr.
Toute la population à Alexandrette, ils l'ont transféré un peu vers Istanbul et tout, et ils ont remplacé ceci par des Turcs.
Voilà, parce que c'était des Arabes, en fait.
Ouais, c'est parce qu'il y a eu un référendum.
Ces habitants d'Alexandrie, voilà. Et donc, on se retrouve en 22 avec ces deux mandats. Donc la France fait ce qu'elle fait, et puis la Grande-Bretagne se trouve avec ce mandat sur la Palestine, mais très habilement dans les coulisses de la diplomatie entre 1917, la déclaration Balfour, et... 1922, le mandat, la déclaration Balfour a été intégrée dans le mandat britannique. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, reçoit le mandat de la Société des Nations pour amener la Palestine à l'indépendance, mais il y a dedans un article qui dit qu'il y aura deux États.
Oui.
Parce que quand on dit foyer national, les Juifs, ce n'est pas une nation. Donc ça voulait dire un pays se revendiquant du judaïsme, mais c'est pas, il n'y a pas de nation juive, ça n'existe pas, aucun juif ne dira ça dans le monde entier, hein, aucun juif honnête ne dira ça. Bon. Et donc la Grande-Bretagne part en 22 avec ce mandat de créer un État, enfin de tenir la main pour un État où il y aura deux États. Ça y est dans le texte. Et ça y est tellement que les États-Unis ont donné leur accord sur la procédure. Et comme les États-Unis ne sont pas membres de la Société des Nations, puisqu'ils voulaient ne pas être membres pour ne pas être engagés par la Société des Nations, parce que leur idée c'était de dire « c'est des histoires entre Européens, laissons-les organiser leurs problèmes et leurs relations, nous on n'y est pas ». Tout de suite après la décision du mandat de la SDN, le président Wilson, qui a orchestré tout ça et qui a donné son accord sur le principe déjà des deux États, fait voter par le Congrès des États-Unis un texte qui reprend la déclaration Balfour. C'est-à-dire que après que la Société des Nations ait dit à la Grande-Bretagne, allez-y, faites ce qui est prévu, les États-Unis bénissent l'opération. On est d'accord là-dessus, et on était d'accord dès le début. On était même plus que d'accord, puisque c'est nous qui avons eu l'idée, à la limite, hein, de confier ça à la Grande-Bretagne. Donc voilà où on en est en 22. C'est-à-dire que cet État... qui a été confié au Royaume-Uni, est porteur de deux États. Ça, bien entendu, aucun pays arabe n'a été consulté, puisque de toute façon, les pays arabes, il n'y a aucun pays arabe qui est membre de la Société des Nations. et pas plus les Palestiniens, qui n'existent pas en tant qu'État constitué, que les populations syriennes. Il n'y a personne. Donc la SDN, c'est un rassemblement d'un certain nombre de pays, mais sauf des pays arabes. Donc on est en train de, donc 1918, fin de la guerre, jusqu'à 1945, d'organiser la vie du monde arabe sans que les Arabes aient ouvert la bouche. C'est ça qui est très très important. Ou qu'ils habitent, qu'ils soient égyptiens, qu'ils soient saoudiens, etc. Bon. Quel que soit le régime, hein, que le régime soit une monarchie, que le régime... Bon. Ouais. Bon. Donc, et c'était, évidemment,
l'Égypte,
ce qui était...
c'était une monarchie à cette époque.
Voilà, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui sort de ça ? Je regarde l'heure, mais qu'est-ce qui sort ? Oui, 5 minutes. Qu'est-ce qui sort de ça ? La Deuxième Guerre mondiale a lieu. Elle a lieu en partie sur ces territoires arabes, mais pas que là, ça on le sait. Je ne rentre pas dans ce morceau-là d'histoire. Et en 1945, l'Organisation des Nations Unies succède à la Société des Nations. Et elle reprend à son compte l'histoire des mandats, mais elle dit maintenant, les mandats, ça fait depuis 22, maintenant on est en 45, on va donner l'indépendance à ces deux États qui étaient prévus. Alors la France joue le jeu, de plus ou moins bon gré, mais elle joue le jeu. Donc la Syrie devient assez vite indépendante et rentre même à l'ONU comme un des premiers États membres de l'ONU.
Un des premiers, oui.
Bon. Du côté palestinien, c'est beaucoup moins simple. C'est beaucoup moins simple puisqu'effectivement, il y a dans le mandat donné au Royaume-Uni cette histoire de deux États. Comment faire ? Alors l'ONU est bien embarrassée par ça. L'ONU est bien embarrassée parce que dire qu'il faut créer un État juif, d'abord c'est pas dans les missions de l'ONU. L'ONU n'a pas le droit et n'a jamais eu le droit de créer un État. L'ONU veut arbitrer des conflits entre États, mais n'a pas le droit d'en créer. Et comment ça se goupille, j'allais dire, si j'ose utiliser cette expression simpliste ? Eh bien il va y avoir un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur la base d'une recommandation de partage. Écoutez bien ce qui se passe en novembre 1947 à l'Assemblée générale des Nations Unies, la fameuse résolution 180 dont on nous rebat les oreilles. Ce n'est qu'une recommandation de l'ONU faite à l'occupant britannique. Ça veut dire rien. Ça dit rien. Hein. Ça serait bien que. Hein, ça serait bien que. Alors, en plus, cette recommandation, donc, ça veut dire... Alors, là, déjà, là, dire, Guterres, s'il est critiqué maintenant, ça commence là. C'est-à-dire que l'ONU ne peut pas excéder le pouvoir qu'elle n'a pas, elle ne peut pas créer un État israélien, un État juif. Hein. Et donc, elle dit, moi, ça serait bien qu'on partage. Je vois qu'il y a deux groupes différents qui sont là sur ce pays. Le nombre des Juifs a beaucoup augmenté ces derniers temps. Merci, Hitler, ça en a amené beaucoup. Mais oui, enfin, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y en a... Alors, il y avait déjà une immigration juive avant, mais effectivement, le fait de l'arrivée du nazisme au pouvoir, ça déclenche un mouvement de fuite qu'on a connu. Alors, on a vu passer partout. Il y en a beaucoup qui sont allés aux États-Unis, mais il est arrivé beaucoup, beaucoup de colons à ce moment-là, à partir de 1933. C'est-à-dire, les chiffres de l'immigration juive, je vous les cite de tête, mais il devait y avoir une centaine de milliers de juifs en 1936, et il y en a 600 000 en 1939. Donc ça a été multiplié, bon, parce que ils sauvaient leur peau. Rien à dire de ce point de vue-là. Et donc, l'Assemblée générale de l'ONU vote à une majorité un peu étroite, cette recommandation, c'est-à-dire... C'est jamais qu'un souhait, ce n'est pas du tout un acte de droit international. L'ONU a recommandé à la Grande-Bretagne de laisser la possibilité à deux États de s'installer. Pas plus. Ça suffit beaucoup à la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne a déjà vu comment ça se passait, a su, parce qu'elle-même en a souffert. Il faut savoir qu'à certains moments, les groupes terroristes sionistes s'en sont pris directement à l'armée britannique. Ouais. Donc, ils se disent, après tout...
La Ghana.
Oui. Voilà, si on les sépare, c'est pas plus mal. Et donc voilà comment arrive théoriquement le deuxième État. Alors l'ONU vote une recommandation disant que ça serait bien qu'il y ait deux États. Hein. Elle dessine quand même le contour de ces deux États. Elle dessine quand même des contours qui fait que 56% du territoire est donné à 33% de la population. Donc l'ONU commence déjà à déraper, très très sérieusement. Hein. En plus, elle choisit les endroits... Enfin, le découpage est d'une complexité énorme. Hein. Il faut savoir simplement, pour parler géopolitique et géostratégique, qu'Israël a en gros toute la façade côtière de la Méditerranée, Gaza mise à part, et l'accès à la mer Rouge. Hein. Donc elle a une entrée des deux côtés, elle a la meilleure position possible. Hein. Bon. Et au contraire, la Cisjordanie, la partie qui s'appelait la Cisjordanie à l'époque, n'a pas d'accès à la mer, est enfermée à l'intérieur de l'État d'Israël futur. Bon. On en est là, donc, en 1947. Alors, ce qui se passe, c'est que la Grande-Bretagne va dire, moi, maintenant, l'Assemblée générale des Nations unies a dit qu'il fallait aller vers un partage de ce type-là, elle a recommandé, donc, moi, je suis prêt à m'en aller. Une fois qu'on met ça en place, moi, j'ai fini mon travail. Et à partir du moment où l'Assemblée générale a voté cette recommandation, le groupe sioniste, qui sont financés par les États-Unis, armés, puissamment armés, entraînés, parce que les groupes terroristes sionistes pratiquent le terrorisme militaire depuis au moins une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'ils sont super équipés, super entraînés et ils sont financés.
Ah oui. Bon.
Et donc, en fait, à la fin 1947, début 48, l'armée israélienne, qu'on appelle quoi encore l'armée israélienne, est déjà opérationnelle, puissante. En face, il n'y a pas de résistance palestinienne. Hein. Les Palestiniens, c'est les paysans à qui ont vu arriver tous ces gens-là, qui se sont déjà révoltés contre cette arrivée, mais ça s'est arrêté là. Donc il y a d'un côté un État qui est prêt, qui a le soutien financier des États-Unis, le soutien diplomatique des États-Unis, etc., et que l'ONU a laissé passer à cause de la déclaration Balfour, et de l'autre côté, un petit peuple qui voit arriver la catastrophe qui lui tombe sur la tête. Bon. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que Israël va décider tout seul de s'autoproclamer État. On est en mai 48, ça vous le savez, hein, alors que la Palestine n'est pas du tout prête. Israël va être immédiatement reconnu, je crois que c'est 15 minutes après la proclamation de l'État d'Israël par Ben Gourion que les États-Unis reconnaissent Israël. 15 minutes, écoutez bien. Et le lendemain, tout le monde a suivi. Hein, bien entendu, tout le monde. Ouais. Les Palestiniens se retrouvent tout seuls. Alors, les États arabes qui sont à l'ONU, il y en a quelques-uns à l'époque, ont voté contre la résolution, la recommandation du partage, mais ils n'ont pas pu faire plus.
C'est là qu'il y a eu le Nakba.
Voilà, et ouais. C'est là, effectivement. Alors, ça donne la première réaction, enfin, le premier effet, on en dira plus une autre fois. Le premier effet, c'est qu'entre novembre 1947 et mai 1948, déjà, les armées, l'armée israélienne, qui ne porte pas encore ce nom, va chasser le maximum de Palestiniens des terres de la Palestine, de futur État palestinien. Et puis, après, ça va continuer. Donc, on compte qu'au total, dans cette Nakba, il y aura 800 000 Palestiniens qui seront chassés de leurs terres. Voilà.
Ils se trouvent en Syrie, au Liban, en Jordanie.
Voilà. Et on en est là, puisqu'on n'a pas le temps d'aller plus loin.
Mais on verra ça.
On y reviendra. Ouais. Simplement, je voulais vous signaler, et donc c'est un peu pour ça que je vous disais, vous pouvez demander à recevoir nos bulletins, que j'ai mis la main sur un document exceptionnel, qui est un article du roi d'Arabie Saoudite adressé à la grande presse américaine, où il explique en novembre 1947, c'est-à-dire avant le vote de l'Assemblée générale des Nations unies, quelle misère on est en train de faire aux Palestiniens.
Il n'a pas été assassiné, ce roi,
si,
il
alors,
me semble. Oui,
oui mais alors il le fait. Alors vous allez dire, le roi d'Arabie Saoudite, c'est un grand féodal. Évidemment, c'est un grand féodal. C'est un monarque absolu, etc. Bon, mais il se trouve que, et il faut le dire aussi parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire, on peut être un monarque féodal et avoir un minimum d'intelligence politique. Ouais. Or, ce qu'il dit dans cet article qui est remarquable et que je vais diffuser avec un commentaire, hein, c'est qu'il situe bien là, les rapports de force sur le terrain et il annonce tout ce qui va se passer et qui se poursuit sous nos yeux. Tout ce qui se passe sous nos yeux a été initié par la trahison initiale de l'ONU et des puissantes coloniales. Merci de votre attention. Passez de bonnes fêtes et on se retrouvera avec plaisir le mardi 2 janvier.
Bonne fête à tout le monde, à tous les auditeurs. Oh.